Et bienvenue dans le Paris Central Show. Bah, désolé pour ceux qui étaient là tout à l'heure, on a essayé de plus avoir la tête de Z qui est en mode 2G. Mais bon, on n'a pas de son, donc on va récupérer sa tête en mode 2G, c'est pas grave. Salut à tous les gars, on va parler, pour ceux qui n'étaient pas là, de la conférence de presse, de tout ce qui a été dit cette semaine. On va parler également de Kylian Mbappé. Donc restez avec nous, on va commencer avec Mbappé du coup, et on va vous laisser redire ce que vous disiez tout à l'heure quand il n'y avait pas de son. Allez, basto, c'est
Pour la
reparti.
troisième fois, comme ça on a fait répétition. Tu nous avais mute, tu peux le dire aux gens, hein, n'aie pas honte, tu voulais nous faire une blague.
Non, j'aurais pas fait
Donc
ça aux gens, je vous aurais fait ça à vous, mais pas aux gens quand même.
je disais, Mbappé, qu'on avait déjà plus ou moins tout dit il y a un mois au moment de sa sortie et de sa lettre envoyée au club, qu'on était dans une impasse, un espèce de point de non-retour maintenant clair entre le joueur qui va au bras de fer et Nasser qui a haussé le ton en conférence de presse pendant la présentation de Luis Enrique et en interview dans Le Parisien derrière. Donc voilà, Nasser met clairement la pression sur Mbappé, mais il a beau mettre la pression, c'est Mbappé qui a les cartes en main, qui est un peu, c'est le PSG qui est un peu la marionnette de Mbappé dans cette histoire. Voilà, pour nous tous, ce serait mieux que ça se finisse maintenant. Maintenant, Mbappé a peut-être un autre plan, c'est-à-dire partir libre. L'année prochaine au Real Madrid, on espère que non.
Et toi, Z?
Bah, comme je disais tout à l'heure, hein, Basto a dit l'essentiel. Encore une fois, décidément, il dit souvent l'essentiel. Et au-delà de ça, ouais, ce que j'ajoutais, c'était juste le gâchis intersidéral que c'était d'avoir eu un mec qui venait de Mondy, qui aurait pu interpréter dans sa ville, ou en tout cas sa région, quoi, enfin sa ville, le football, etc., etc. Un immense rendez-vous raté. Et comme le disait Basto, s'il part libre, on n'est pas loin de la catastrophe industrielle. Un joueur que tu as payé deux fois très cher. Il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est cette rumeur de prime que le PSG aurait à verser à Kylian Mbappé si Kylian Mbappé venait à partir cette année, qui bloquerait et bah, qui met encore en illustration nos talents infinis de négociateurs.
C'est pas une rumeur, hein. Il touchera une prime s'il est là le
Ouais,
31 juin.
ouais, ouais. Mais non, non, s'il part,
Non,
s'il part.
s'il est là. S'il
Ah,
part
d'accord.
après le 31 juillet, il aura sa prime.
Ah oui, voilà, oui, c'est
Avant,
ça.
il ne la touchera pas.
Ah oui, c'est ça. Et bah, ça met encore en lumière nos infinis talents de négociation, quoi.
Bonne baignade, Réco. Amuse-toi bien.
La chance.
Là, mais après, comme vous disiez, c'est un peu dommage parce que.
Ah, c'est du gâchis.
C'était une histoire qui aurait pu bien se terminer. Et là, on va se retrouver encore une fois. À chaque fois, on a un meilleur buteur. Mais au final, on n'a pas cette chance que beaucoup de clubs ont d'avoir un meilleur buteur. Genre, c'est une légende et que tout le monde respecte et tout. On avait eu Cavani, ça s'est mal terminé. Ça a terminé en manière mercenaire. Là, ça va terminer encore en manière mercenaire. Alors, on n'a pas comme dans les grands clubs, par exemple, je sais pas, Messi, meilleur buteur du Barça, que tout le monde aime. Le
Mais
Real avec Ronaldo.
est-ce qu'on s'est pas construit une image de mercenaire, justement? Tu vois, par exemple, si on peut faire l'allégorie avec City à ses débuts, qui avait d'une certaine manière les mêmes problématiques et qui a su les remplacer avec un projet foot, 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 foot. Mais nous, on a tout mis sur le marketing, on a tout mis sur le bling-bling. Peut-être que cette année, on se remet en question. On va en parler tout à l'heure, mais ça, c'est une promesse qui est faite chaque année. Et d'une certaine manière, est-ce que c'est pas logique? Si tu te souviens de la dernière figure de proue que tu as eue, bah, c'était Paoletta. C'était une époque où justement tu n'étais plus dans le bling-bling. Et à l'heure actuelle, bah, les mecs qui viennent, tu vois, tu parlais de Cavani. Cavani avait tout pour l'être. Et il y a ce départ qui est un peu en eau de boudin, mais qui est aussi conséquence de notre relation qu'on imprime avec les joueurs.
Tu es d'accord avec ça, Basto?
Bah oui, tout à fait, oui. Rien de
Ok.
plus.
Non, mais.
Et ok avec ce que dit Matt. Hein. Mais
Non,
bon,
mais.
si ça pouvait se passer.
Allez, à
Ouais.
haut. Ouais. Non, mais. En fait, le problème d'Mbappé, c'est que. En fait, on s'en fiche un petit peu qu'il veuille partir. Genre, il a déjà fait 6 ans, c'est le meilleur buteur du club. Tu veux partir, pars. Mais en fait. Je sais pas, par proprement, je comprends pas pourquoi. Limite, là, on a l'impression que le mec, il veut partir en détruisant le club. C'est-à-dire, genre, en mode,
C'est beaucoup trop
je
limite.
veux pas que vous ayez les 200 millions, et en
Mais
plus, je veux prendre les
on a fait
120 millions
n'importe
de
quoi.
primes de fidélité. Au final,
Je...
tu pars avec, tu laisses moins 300 dans les caisses du Paris Saint-Germain, moins 300 millions, alors que le Paris Saint-Germain aurait pu faire des choses avec ces 300 millions. Donc là, tu as l'impression que le mec, il veut partir et laisser le club en fumée derrière lui, tu vois.
Même pas, c'était, enfin, on a fait tellement n'importe quoi entre la prolongation, là, cette prime s'il part après le 31 juillet, enfin, pourquoi tu mets ça comme clause? Il y a un moment où, à force de donner le bâton pour se faire battre, c'est quoi l'expression? Eh ben, tu t'en prends une en pleine mandale. Alors après, il va, tu sais, pour l'instant, on parle un peu dans le vide, il va peut-être partir, mais s'il part pas, c'est clair que c'est pas clean de sa part. Mais on est responsable de cette situation, on l'a créée de toutes pièces.
Oui, mais
Ouais, puis
on
après,
l'a créé. Ouais, vas-y, Basto.
bon, puis on voit dans la il y a des extraits de la lettre et de réponse du PSG à Mbappé. Ce qui est sûr, c'est qu'on lui a promis un mercato l'année dernière qui n'est pas arrivé. Et d'ailleurs, le club se justifie en disant c'était effectivement, t'as promis ça, mais c'était on a fait avec les contraintes de ce
Oui,
mercato et
comme
c'est
quoi
contre
c'était
notre
vrai cette
volonté,
promesse. Hein.
etc. Mais comme quoi c'était vrai, comme quoi on lui a promis un gros mercato, puis ça
Voilà.
se justifie pour dire pourquoi on l'a pas fait. Donc Mbappé, au bout d'un moment, il se dit j'ai prolongé, c'était pour avoir une équipe plus compétitive, et je me retrouve avec une équipe qui était moins forte sur le papier que l'année d'avant.
Et tu peux comprendre, si tu veux, quand si t'es Kylian Mbappé, que t'as vraiment, tu vois, si tu te mets 2 secondes à sa place, t'as vraiment de l'ambition, t'as envie d'aller loin en Ligue des Champions, tu te dis, ok, avec Paris, on redonne une chance. Et tu vois cette saison, mais t'as de quoi en avoir ras-le-bol, quoi. Pourquoi il y a un moment où, si tu veux, tu sais, quand t'as l'autre qui se comporte mal en permanence, qui machin, qui truc, au bout d'un moment, pourquoi est-ce que tu le respecterais? Si le PSG n'est pas capable de se respecter lui-même, et est-ce qu'on s'est vraiment respecté nous-mêmes dans cette histoire avec Kylian Mbappé, peut-on vraiment attendre du respect de l'autre?
Oui, mais en fait, là, comme je vous disais, on est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que peut-être ils ont fait ça parce que, enfin, ils sont cons, bien évidemment qu'ils sont cons, mais ils se sont dit Kylian Mbappé, genre, il aime Paris, il est resté 6 ans au Paris Saint-Germain, il va pas faire ça au club. On part pas d'un mec qui a aucun lien avec le club, genre, je sais pas, t'aurais fait ça avec Cavani ou avec Neymar, je t'aurais dit, là, on parle de Kylian Mbappé, français, parisien. Je pense à, ils se sont dit, il va pas laisser son image se
Oui,
détériorer autant
j'entends.
à Paris en faisant un truc de fou comme ça. Et après, il y a aussi le fait qu'à la base, il y a peut-être le fait qu'il n'était pas parti pour faire cette stratégie et le fait que Benzema parte en Arabie Saoudite a changé les plans et du coup, il a changé son fusil d'épaule. Mais à la base, peut-être c'était bien ce qui était prévu. Et eux, ils se sont dit, on va tout faire pour le garder, mais que l'année prochaine, il va prolonger, on va le vendre. Mais là, le fait qu'ils veulent partir avec moins 300 millions dans les caisses du Paris Saint-Germain, ça, c'est la partie que moi, je n'aime pas du tout. En fait, il peut partir demain, après-demain, le jour d'après. En fait, moi, j'en ai rien à faire. Son joueur, les joueurs, ça se remplace. Le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de Kylian Mbappé. La preuve, il a été là pendant 6 ans. On n'a rien gagné de fou en Europe. Mais le problème, c'est les 300 millions, en fait. Je ne comprends pas un truc. Le truc qui s'appelle prime de fidélité, les gars. Ça s'appelle prime de fidélité. Tu veux partir. Mais tu veux toucher ta prime de fidélité. Si tu veux la fidélité, c'est si tu restes en fait. C'est pas parce qu'il y a un contrat. C'est pas parce qu'il y a un contrat qui dit que tu peux, genre, essayer de filoucher, rester jusqu'au 31 juillet, prendre ta prime après te barrer. Si t'es un mec correct, tu prends ta prime de fidélité si tu restes. Je sais pas. Là, on est en train de parler de la personnalité de la personne en fait.
Ouais, mais de toute façon, tu le vois, le club non seulement se justifie sur le mercato qu'ils n'ont pas réussi à faire, mais se justifie, comme disait Dreyer, sur le fait qu'ils ont tout donné à Mbappé. Ils disent, on a fait des choses pour vous qu'on n'aurait jamais faites avec personne, etc., etc. Le club n'était pas obligé de le faire. Tu disais, bah, tu pars, on te vend 100 millions, 150 millions l'année dernière. On n'était pas à bah, non, parce qu'ils partaient, mais ils prolongeaient ou on le vendait dans
Et
l'été.
puis,
Mais
combien de promesses on n'a pas été à la hauteur? Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, il y a un moment où quand tu fais des promesses, bah, tu les assumes, quoi. Et
après,
si
oui, si
tu
Mbappé veut rester cette
et si
année,
tu, et
plutôt que
si tu
partir cet
les si tu
été.
les assumes pas, bah, tu es prêt à en assumer les conséquences. Mais ce que tu dis reste vrai, hein, Nix. Ce que tu dis reste vrai. La seule chose que je dis, c'est qu'à un moment, tu sais, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde où tu peux gagner 80 millions d'euros. Est-ce que c'est vraiment juste une prime? Est-ce qu'il s'agit juste d'être réglo? Enfin, tu vois, je veux dire, nous, on a une lecture de supporters, donc on a une lecture affective. Eux, c'est des participants,
Non.
il y a des énormes montants. Je finis. Il y a des
Ah,
participants, il y
vas-y.
a des énormes montants. On peut pas transposer notre lecture à ça. Mais maintenant, oui, tu as sans doute raison. Et on ne connaît pas le fin mot de l'histoire. Peut-être qu'il va partir avant le 31 juillet pour l'histoire de la prime ou machin bidou chouette et qu'elle n'aura pas à être distribuée. Peut-être que si, peut-être que machin, peut-être que truc, peut-être qu'il va pas le faire. On connaîtra pas le fin mot de l'histoire. Mais tu peux pas appliquer la même grille de lecture. Et la seule chose que je dis, c'est. C'est vrai, hein, t'as raison, c'est-à-dire que c'est une lecture qui est possible, c'est-à-dire que tu peux lire ça sous le prisme, mais il y a aussi ce facteur de tu fais 25 promesses que t'es pas capable de tenir, tu machins, tu bidules, tu mets des primes dans tous les sens, des trucs, tu cèdes à tout, tu te fais le larbin des joueurs, puis il y a un moment où bah, tu te fais punir, quoi.
Non, mais en fait, les gars, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là où j'attaque Mbappé, c'est sur la personne, en fait, sur le manque de, je sais pas, d'honnêteté dans son discours. Quand il te dit moi, je veux rester l'année prochaine parce que, vas-y, j'ai envie de continuer à jouer au Paris Saint-Germain, alors qu'il veut juste ne pas dire qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain pour pouvoir toucher sa prime. C'est un truc de fou. En fait, tu veux partir, tu as le droit de partir, mec. Pars. Mais pourquoi tu fais ton cinéma après, là, j'ai l'impression. Vas-y, Basto.
Après, yeah, Samir. Merci, Samir. Merci. Toujours là.
C'est toujours là, Samir.
Donateur numéro 1. Merci. je disais que Mbappé, après, on ne sait pas
il a raison.
Pour le moment, il a un discours de je veux rester, mais on ne sait pas si c'est un discours de façade avec un départ qui se négocie en coulisses. Prêcher le vrai dans ce que dit Mbappé, on ne sait pas trop. Puis c'est aussi une stratégie avec le Real Madrid. Hein. Un accord qui est peut-être que sur l'année prochaine, etc. etc. Donc, Mbappé n'est pas seul maître du dossier là-dessus, il y a aussi le club acheteur.
Et puis il y a une chose, tu vois, par exemple, tu parles de stratégie avec le Real Madrid. Notre stratégie avec le Real Madrid, c'est peut-être que tu pars après le 31 juillet, comme ça on te paye 80 millions de moins. Tu te fais 80 millions de plus sur le dos du Paris Saint-Germain. Tu sais, c'est possible que les pressions viennent de là. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne connaît pas le fin mot de l'histoire, donc on ne va pas tout de suite aller aux conclusions. Encore une fois, il peut encore partir avant le 31 juillet. Et c'est juste que prenons conscience que notre grille de lecture en tant que supporter n'est pas la même que la grille de lecture quand tu peux te faire 80 millions, que machin, que bidule, etc. etc. Et qu'on ne maîtrise pas tous les enjeux, qu'on ne les connaît pas tous, etc. Le fin mot de l'histoire, pour moi, ma lecture du fin mot de l'histoire, c'est que c'est juste un putain de rendez-vous. S'il part, c'est un rendez-vous qui ressemble à une catastrophe économique ou je ne sais plus c'est quoi l'expression. S'il part l'année prochaine, je veux dire, et s'il part cette année, on arrivera à sauver les meubles en dépit du fait d'avoir fait des promesses qui ne tenaient pas la route. C'est Samir qui l'a très très bien exprimé en lâchant ses 5 balles. Merci beaucoup, mec. Et voilà, c'est y a un moment où achète-toi une cohérence avant de demander la cohérence de l'autre, quoi.
Je crois que la fiche du match Paris Al-Nassr, je me demande si c'est pas un troll parce qu'il y a Kimpembe dessus qui est blessé, qui pourra pas jouer. Donc...
Ouais, ils ont fait ça au hasard.
Ouais, il y a Neymar, Verratti, Kimpembe, Hakimi, tous ceux que tu as envie de voir, tu sais.
Non, mais en fait, pour revenir sur les 80 millions, même en tant que pas supporter, moi, si je me mets à sa place, bien sûr que je veux les 80 millions. Il a le droit d'aimer l'argent. Moi aussi, j'aime l'argent. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les 80 millions, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Moi, mon problème, il est dans la fin de genre, j'ai envie de rester. Moi, tu me dis, je veux rester pour prendre mes 80 millions. Moi, je dis, vas-y, t'es carré. Mais quand tu te fous de la gueule des gens comme ça à faire des cinémas, moi, je veux rester la saison prochaine. Ça fait un mois qu'il n'arrête pas de répéter ça en boucle pour ne pas faire sauter sa prime. Moi, je veux rester au Paris Saint-Germain. Mais là, en fait, il est en train de nous prendre pour des cons. Et c'est là où j'aime pas, parce que les 80 millions, s'il les veut, moi aussi, j'aurais pris 80 millions. 80 millions, c'est beaucoup d'argent. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais arrête de prendre les gens pour des cons. En fait,
oui, mais ça se trouve, tu vois, par exemple, c'est négocié depuis 6 mois, depuis 3 mois avec le Real en ces termes-là. C'est peut-être ça, hein. Le Real, ok, on te prend cette année, ok, on te paye machin truc, mais tu nous coûtes 80 millions de moins, etc., etc., etc. Et tu sais pas les tenants, les aboutissants, quoi.
Replay Off nous dit que Mbappé, il est bien sur l'affiche.
Il y a une affiche du PSG officielle. Là, effectivement, pour le match, tu as Kimpembe qui est blessé. Tu te demandes pourquoi ils l'ont mis. Et après, c'est Verratti, Neymar, Marquinhos, Hakimi. Je pense qu'ils ont juste mis les plus gros noms parce que c'est en Arabie Saoudite. Je pense que c'est un truc de com du club. Hein. C'est pas, faut pas tirer des conclusions de ça après qu'il n'y ait pas Mbappé.
A priori, c'est pour une deuxième mi-temps, si j'ai bien compris les messages de replay. Je sais pas.
Ouais, il a dit sur la deuxième, il est dessus.
Ah, il y a deux photos, ok.
Parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui parlent du passage entier de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, parce qu'on est quasiment tous sûrs qu'il va se barrer. Il y a des gens qui nous disent qu'au final, il a été dans toutes les défaites. Par exemple, Alain Philippe nous dit qu'il a été dans toutes les défaites. Et c'est un loser en moi. En fait, faut pouvoir, en fait, dans le foot, faut pouvoir séparer le joueur et la personne. Sur les années que Kylian Mbappé a passé au Paris Saint-Germain, le joueur, j'ai pas grand-chose à lui dire, en fait. Il a fait... Merci Samir, je finis, après je te prends tout de suite. Sur le joueur, j'ai pas grand-chose à dire. Par contre, sur la personne, Ah, qu'est-ce qui nous a fait chier pendant 5 ans avec ces déclarations à gauche, à droite, je vais plus de responsabilité, pas de conneries comme ça, là. Moi, franchement, la personne qui se casse avec tout son entourage, moi, j'ai hâte. Bah, par contre, sur le football, vous pouvez pas trop l'attaquer. Samir, quand tu fais des promesses, il faut les tenir, sinon ça vous revient comme un boomerang derrière la tête. Le cas Mbappé est un parfait exemple. Bon, du coup, les gars, qu'est-ce que vous avez à dire sur les 6 ans que Kylian Mbappé a passé au Paris Saint-Germain?
Bah, c'est contrasté. Il y a cette période où c'est sous Pochettino, après la Ligue des Champions, où il gagne des matchs quasiment à lui tout seul. Il y a des périodes où il a été un peu décevant, mais je ne pense pas qu'on peut lui attribuer la responsabilité des échecs du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Il y a un souci d'effectif. Quand tu regardes notre milieu de terrain est peut-être un des moins cohérents de la Ligue 1. Et on avait une attaque qui était plus chère que l'attaque de n'importe quel club européen. Il y a eu des énormes soucis dans la construction de l'effectif. Et tu te retrouves avec... Il y a un côté caviar. Kylian Mbappé est un top joueur qui était dans une équipe médiocre, quoi. Taper sur le top joueur pour dire on n'a rien gagné, ouais, peut-être. Enfin, il y a un moment où tu peux plus, tu sais, en Ligue des Champions, le niveau il est tel, la marge d'erreur est tellement faible que tu peux plus compter sur un individu pour te gagner un match. Ce que tu peux encore voir en Ligue 1, en Ligue des Champions, passer les quarts de finale, c'est juste plus possible. Il y a un moment où tu es obligé d'avoir un collectif, tu es obligé d'avoir un pressing qui est global. Et peut-être que les défaillances du Paris Saint-Germain en Europe tiennent bien plus de ça que de Kylian Mbappé en tant que tel. Après, sur la personne, je suis d'accord.
Après, oui, non, Mbappé, c'est dur de taper sur lui sportivement. Maintenant, c'est vrai que paradoxalement, en 6 années, c'est 4 fois, on passe pas les 8e, alors qu'avant, c'était arrivé qu'une fois, avant l'arrivée de Kylian. Si on regarde, lui, ses performances individuelles en Ligue des Champions, ça va être un peu mitigé, on va dire, contre le Real Madrid, bon, la première année, il n'est pas influent. La deuxième année contre United, ce match retour où il glisse, on s'en souvient, face à De Gea. Ensuite, il y a le final 8 où même il est blessé, mais c'est lui qui fait peur et qui a l'Atalanta en rentrant et c'est lui qui change la face du match. L'année d'après, c'est la demi-finale, c'est contre le Barça et Munich, c'est sûrement sa meilleure année en Ligue des Champions. Ensuite, il y a le Real l'année dernière où il n'y a rien à dire en fait. Il marque à l'aller, il marque au retour. Et puis cette année, pareil, contre Munich, il sort de banc de blessure et il fait peur. Donc c'est plutôt positif son bilan personnel. Maintenant, collectivement, on n'était pas moins bon avant l'arrivée d'Mbappé, mais c'est le projet Mbappé plus Neymar plus qui a changé aussi. Donc.
J'aimerais revenir sur le message de Carnito qui dit que Messi emmenait le Barça au moins en quart à chaque fois. Alors peut-être c'est vrai, mais quand le Barça a été fort, eh ben en fait il n'y avait pas que Messi. Hein. Il n'y avait vraiment pas que Messi dans cette équipe. Et Messi a tiré toute la lumière, mais il n'y avait pas que Messi. Il faut se souvenir par exemple du fameux match, hein, on va peut-être avec le temps pouvoir le nommer par le nom qu'il a été communément donné, c'est la remontada. Une des raisons du départ de Neymar, c'est que Messi prend toute la lumière alors que c'est quasiment Neymar qui fait le match. Et dans la grande époque du Barça, bah, faut pas oublier Xavi, faut pas oublier faut pas oublier Busquets.
Après, où la raison ? C'est que Messi est parti depuis 2 ans et en 2 ans, le Barça n'a pas passé la poule de Ligue des Champions.
Ça, oui. Mais ce que je veux dire, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives en quart, en 8e, etc., mais de la même manière que nous, hein, d'une manière générale, on sort des poules. Enfin, même, je crois qu'on est sorti à chaque fois des poules. Peut-être avec
oui,
même
non,
voilà,
été...
voilà. C'est tu sors des poules. C'est pas là où tout à coup, il y a ce gap monstrueux où un joueur seul peut faire la différence à lui tout seul si l'équipe est défaillante autour. C'est à partir des quarts. Et ben justement, Messi, ça n'allait pas plus loin des quarts quand il n'y avait pas d'équipe autour. On ne t'entend pas, Nix. Tu as le micro coupé.
Ouais.
Ouais, désolé. Les gars, j'ai un message à vous faire passer parce que y a beaucoup d'entre vous, vous me dites que vous aimez le contenu et tout ça, mais ce n'est pas reflété dans les likes, les gars. Et au final, vous voyez, Paris Central ne se développe pas parce que vous êtes beaucoup à regarder. Franchement, il y a à peu près 15 000 spectateurs réguliers et je regardais dans les stats. Et à chaque fois, on n'arrive pas à dépasser les 200 likes. Et il y a plein de YouTubeurs qui ont moins de stats que nous et qui ont plus de likes. Regardez notamment notre poteau Rekoba. Normalement, sur ses vidéos, il a 800 likes et tout ça. Donc, en fait, le message que vous êtes en train de dire à YouTube, c'est que vous n'aimez pas notre contenu. Et du coup, après, YouTube, il ne partage pas. Donc, si vous voulez qu'on reste entre nous, peut-être c'est ça le but, au fait. Peut-être que vous aimez, vous voulez pas liker pour qu'on reste à 200 tranquille entre nous. Ça, je peux le comprendre. Mais sinon, les gars, likez, frère. Ça aide à faire monter le podcast, qu'on soit plus. Moi, je vous embête pas avec ça. On va enchaîner avec tout ce qui s'est passé cette semaine dans la conférence de presse. On va attaquer la conférence de presse en deux parties. Il y a eu du Nasser et il y a eu du Luis Enrique. Ah bah, ça a au moins motivé des abonnements. Il y a eu la partie Nasser et la partie Luis Enrique. Il y a eu pas mal de choses intéressantes. On va commencer peut-être par Lucho. Lucho qui a dit « L'identité offensive, c'est non négociable. Je peux vous garantir qu'on va jouer en tant qu'équipe. Et c'est mon objectif. » Donc, est-ce que pour vous, Luis Enrique va être un garant d'un jeu offensif pour le Paris Saint-Germain? Ou est-ce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, juste avant Galtier, Pochettino, il avait dit en conférence de presse, dès qu'il est arrivé, le jeu, la qualité de jeu, c'est ce qui est le plus important. Et on s'est tapé un an de bouillie, mais de matchs impossibles à regarder. Est-ce que pour vous, Luis Enrique, c'est une garantie d'un jeu offensif? Ou est-ce qu'on risque de se taper des bouillies encore, comme ça fait notamment 3 ans qu'on se tape au Paris Saint-Germain? Vas-y, Basto.
Comme tu l'as dit, Pochettino a dit ça, c'est pas le seul. Hein. Galtier aussi avait eu des propos en, comme quoi Paris était obligé de jouer offensif. Et puis Tourelle a été venu en disant Paris, c'est romantique, il faut jouer de ma philosophie, c'est l'attaque, l'attaque, l'attaque. Un mois après, il joue avec 3-6 au milieu. Donc, Luis Enrique, bien sûr, c'est un coach qui a l'esprit Barça, donc qui a plutôt espagnol, etc. Donc, qui a plutôt des velléités offensives. Maintenant, ça peut vite se transformer comme son Espagne, on ne l'espère pas, ou son Barça troisième année en une équipe.
Ça reste offensif. Hein.
Ça reste offensif. Mais offensif ne veut pas dire, ne veut pas dire pour l'attaque. Parce que quand tu fais la passe à 10 et que tu finis avec 2 frappes cadrées, t'as beau être offensif, tu ne crées pas de situation. Donc quand tu es offensif mais stérile, ça peut vite devenir chiant. Nix parlait aussi du plaisir de regarder les matchs. Si on tombe dans une caricature comme on a eu parfois sous Laurent Blanc, on risque de s'ennuyer. Maintenant, on espère qu'on va recruter des joueurs qui prennent de la verticalité pour éviter d'avoir l'Espagne de Luis Enrique et plus le Barça première, deuxième année. Enfin, c'est ce qu'on peut espérer de mieux.
Non, Isaac, je ne veux pas montrer de pec. Basto, montre le tien, si tu veux.
Non, mais en fait, Nix, il ne veut pas le montrer parce qu'il n'en a pas. Mais au-delà de ça, Carnico s'est formé. Mais par rapport à ce que disait Nix, c'est vrai pour vous qui êtes là, mais c'est surtout quand vous êtes en train de réécouter la chaîne, que vous avez le téléphone dans la poche, etc., etc., bah, posez quand même votre like, sortez le téléphone, et parce que ça nous aide, sinon on n'arrive pas à se développer, on n'arrive pas à, justement, comme ça a été dit, battre l'algo YouTube. La différence entre Enrique et Pocket, Galtier, ou même Tourelle, c'est le football qu'il pratiquait avant. Comme le disait très bien Basto, Enrique, des fois, c'est devenu un putain de cliché. C'était insupportable à regarder son Espagne récemment. Insupportable, enfin moi je détestais ça, mais c'était offensif, c'est-à-dire que ça joue avec la balle, ça cherche à la récupérer plus vite, ça cherche à se projeter rapidement, ça cherche à créer des situations dans les 30 mètres. La problématique, c'est est-ce que ça sera efficace? Ça oui, c'est une problématique. Maintenant, je trouve que c'est vrai que c'est un discours qu'on a beaucoup entendu, mais peut-être pour la première fois, on a un coach qui peut se permettre d'avoir ce discours, parce que Tourelle, on croyait que c'était offensif à Dortmund, mais il s'avère entre ce qui s'était passé à Dortmund, ce qui s'est passé à Paris, ce qui s'est passé ensuite, c'est pas forcément un coach qui est offensif, c'est surtout un coach qui se définit par la qualité du jeu sans ballon. Pour Pochettino, c'était presque pareil, c'est pas forcément un coach offensif. Galtier, on va pas en parler. Voilà, on n'avait pas forcément des coachs qui pouvaient tenir ce discours-là et qu'ils tenaient parce qu'ils étaient obligés dans le contexte-là. Alors que là, avec Luis Enrique, on a un mec qui a la légitimité pour dire ça. Il a toujours cherché à jouer offensif. Des fois, en étant le cliché du mec offensif qui joue à la baballe à 10 dans les 30 mètres adverses sans rien faire, des fois, il était dans le cliché du mec offensif, mais il a toujours été offensif. Donc, il a la légitimité pour le dire. Maintenant, si c'est pour, comme le disait Basto, finir comme l'Espagne lors du dernier Euro mondial, je ne sais plus avec ma mémoire, ça va vite nous lasser. Ce sera un jeu offensif, mais chiant à mourir. Et espérons que ce ne sera pas ça. Et comme le dit Basto, vite, vite, vite un œuf, vite, vite, vite des mecs qui savent se projeter vite devant.
Ça, c'est sûr qu'il ne nous fera pas un match comme Galtier contre le Bayern au Parc.
Non. Mais ça peut être, comme tu dis, vite, il faut des recrues.
Ouais, j'ai vu passer notamment. C'était ce matin que je crois que la priorité, là, ce sera un œuf et un milieu axial droit. Si c'est bien recruté, est-ce que pour vous, on a une équipe qui va peut-être marquer plein de buts? Parce que le 9, il nous a manqué. Ça va dépendre aussi du 9 qu'on va recruter. Mais franchement, on va parler de Nasser tout à l'heure, mais comme il a dit, là, on n'est pas trop sur le spectacle. Là, sur le résultat, ce serait plus retrouver un peu de spectacle au Paris Saint-Germain et je sais pas, avoir. Bah, toi, tu es le mieux placé pour dire, pour comprendre ce que je dis, parce que t'as arrêté de regarder des matchs depuis, je sais pas, le mois d'avril ou le mois de mai,
quand on avait marre. Mais c'est Nasser qui dit ça. Nasser avait le discours contraire l'année dernière quand il disait fini bling bling, il faut se reconcentrer, je sais pas quoi. Là, il nous sort un discours inverse où il nous parle qu'à Paris on doit attaquer alors que l'année dernière c'était il fallait des valeurs guerrières. Donc voilà. Faut le suivre, Nasser. Bien sûr qu'on espère. Nous, ce sera pas important de faire demi-finale de Ligue des Champions. Bon, il faudra gagner la Ligue 1 quand même. Mais si on retrouve du plaisir dans le jeu, ce sera déjà les bases d'un nouveau projet. Et puis tout le monde sera, je pense, plus ou moins content. Mais bon, croire en ce que dit Nasser, c'est du storytelling habituel. Donc, je ne l'écoute même plus vraiment.
On va le garder pour tout à l'heure. Il y a Jackson qui nous a dit si on avait Ambre Godillon, on aurait plus de likes. Ambre, on t'invite pas sur la chaîne.
Je réponds pas pour Nasser.
Pour Nasser. Non, mais Nasser, j'ai dit, on va parler tout à l'heure. Il a pas compris. Bastou, il est rentré dans le sujet.
Ah, mais c'est toi qui dois comprendre. Oui, excusez-moi.
Tranquille. On va le garder pour tout à l'heure.
Juste pour répondre à Tamso, du coup.
Tamso.
Qui disait qu'il avait préféré regarder l'Espagne que la France. J'entends. Et en effet, il y a quelque chose de plus satisfaisant. Mais je pense que si tous les week-ends, t'as la passe à 10 dans les 30 mètres sans jamais marquer un but, et que mais à chaque fois, et que ça vire au cliché, au bout d'un moment, je pense que tu vas te lasser.
80% de possession contre Clermont pour finir avec deux frappes cadrées, oui, je pense.
Voilà, tu vois, il y a un moment où... Non, c'est exagéré, mais il y a un moment où si ça se répète un petit peu trop souvent, c'est...
Y a quelqu'un qui vous a dit tout à l'heure, est-ce que vous pensez que Ekitike va s'améliorer avec Luis Enrique?
J'y croyais pas l'année dernière, je vais pas me commencer à y croire. Hein. Pour moi, il va se muscler un peu, mais là-dessus, c'est vraiment une croyance personnelle. Hein. Je connais pas le futur, mais il va prendre un petit peu de volume. Mais j'ai l'impression qu'avec un petit peu de volume, ce sera un bon Ouaro. Ouaro, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, mais Ouaro, c'est pas un joueur qui aurait pu jouer dans le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, même s'il avait fait des choses extraordinaires avec les Young Boys de Berne. Et c'est un joueur éminemment sympathique, mais c'est juste qu'en termes de niveau, il est juste dans le cran en dessous. Et je pense qu'Ekitike, ce sera toujours le cas. Après, c'est juste la croyance.
Il est sur la liste des départs, même si lui, a priori, veut rester. Moi, là, on voit beaucoup faire ses photos, la force, musculation. Les derniers qui ont fait ça, c'est Kurzawa et Rezé. Donc, ça ne donne pas vraiment confiance.
Non, mais je vais avouer quelque chose, parce qu'on a, fait un sujet qui était Luis Enrique, le pire coach pour le Paris Saint-Germain, des quatre coachs qu'on avait notés. J'ai pas complètement changé d'avis, mais j'avoue que sa conférence de presse, et depuis qu'il est là, t'as l'impression que le mec, il est là pour taffer. Après, est-ce qu'il aura toutes les cartes et le niveau pour le faire? C'est autre chose. Mais au niveau, je sais pas si vous l'avez senti, au niveau de la volonté de travailler et l'implication dans le projet, j'ai l'impression qu'on est peut-être au-dessus de, je sais pas, un Pochettino ou un truc comme ça. Moi, j'ai vraiment l'impression...
Tu peux calmer ton enthousiasme?
Non.
Mais je suis prêt, là. Les arguments qui sont là, qui sont au taquet, ils sont prêts à sortir, hein, Nix.
Heureusement que j'ai parlé de la partie implication. Là, tu as entendu un mot, tu as voulu attaquer direct alors que j'ai nuancé la chose. J'ai dit, peut-être dans le football, ça ne va pas être ça. Moi, je pars du côté implication et du côté passionné dans le projet du Paris Saint-Germain. Moi, je le vois, ça, personnellement. Après, côté football, est-ce qu'il va pouvoir gérer le vestiaire? Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à la Ligue 1? Est-ce qu'il ne va pas être trop dans le football collectif sans finition, etc.? Ça, c'est autre chose. Mais moi, je parle particulièrement de l'implication du mec. Est-ce que vous le sentez vraiment prêt à en découdre, entre guillemets, avec tout ce qu'il va devoir affronter au Paris Saint-Germain?
Il y a deux choses qui sont pavées dans la mare. L'historique à Barcelone, où mine de rien, tu vois qu'il y a un moment quand le vestiaire se retourne contre lui, il se couche. Et on sait ce que ça donne le vestiaire du Paris Saint-Germain. Et la deuxième chose, c'est l'appétence de l'effectif pour le jeu de Luis Enrique. Moi, c'est un problème. On parlait tout à l'heure de l'attaquant et des 8 qui jouent haut, mais il y a aussi le problème du 6. On n'a pas le 6 pour jouer avec Luis Enrique. Enfin, ouais, tu l'as avec Ruiz. Hein?
Hors sujet un peu.
Bah non, je suis pas hors sujet.
Pas de l'implication, pas du jeu.
Oui, mais oui, mais oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'implication va être déterminée aussi par les résultats, par la manière avec laquelle ça va fonctionner. Et si jamais tu commences avec ton vestiaire, ça commence à criser et que tu commences à te coucher et qu'ensuite de ça, tu n'as pas l'effectif pour apporter les réponses à tes intentions, bah ton intentionnalité, elle va vite se casser la gueule. Donc si, même s'il y a cette intention et que tu peux ressentir, bah ces deux arguments-là sont quand même, à mes yeux en tout cas, des arguments massus par rapport à ce que tu es en train de dire, Nyx.
Et toi, Basto ?
Bah, pareil, il est sûrement impliqué, il a toujours été plus ou moins, c'est un coach assez travailleur. Maintenant, il faut se souvenir l'année dernière, Galtier, déjà au travail, il appelle Campos à 3h du matin, il est forcément plus impliqué parce que c'est un rêve pour lui, en plus le PSG, c'est l'occasion de sa vie.
Est-ce qu'on répond à cette question, la question de Fabien Durand ?
De quoi ? Est-ce que vous pensez que Luis va... Ça, on verra après. Juste sur l'implication, du coup, il y a ce storytelling. J'ai même vu un site que je ne citerai pas qui disait que Luis Enrique, en attente d'hôtel, dort au nouveau centre d'entraînement de Poissy. À mon avis, c'est... je n'y crois pas vraiment. Et bientôt, on va tomber sur... Bientôt, dans une semaine, on aura, après la reprise de l'entraînement, on va entendre enfin de l'intensité aux entraînements, comme on entend avec chaque coach. Et puis voilà, donc on jugera, comme pour tout le monde, on jugera au bout de 3 mois pour un premier bilan, et puis en février-mars pour un second. Les paroles, c'est les paroles. Les actes, c'est mieux sur le faux neuf. Ouais, sur le faux neuf, oui. Bah, il faut un neuf au PSG, si c'est un faux neuf, c'est sûr que ça risque d'être compliqué.
Ok, presque toute la masse salariale sur 4 joueurs, gestion catastrophique, aucun projet d'équipe. Ouais, ben là, ça risque de partir dans un meilleur sens déjà. Ok, ça fait 30 minutes qu'on est live, vous êtes 300. Donc là, on va faire un challenge, les gars, vous êtes 300. Si, dans 24 heures, cette vidéo a 300 likes, on vous offre mon d'achat chez Nike de 20€ pour acheter votre maillot Paris Saint-Germain. Et ça vous fera 20€ en moins. Voilà. Vous avez 24 heures, vous êtes 303, vous êtes 312 même. Vous pouvez avoir 300 likes. Pour rentrer dans le concours, on va tirer au sort. Mettez votre joueur préféré du Paris Saint-Germain en commentaire, pas dans le chat. Pas dans le chat, dans les commentaires, parce qu'on va tirer au sort les gens dans les commentaires. Donc après le live, vous, maintenant, si vous arrivez à le faire, mettez dans les commentaires votre joueur du Paris Saint-Germain préféré. Il est 8h07, 13h14, si vous y arrivez pour... on est le 8 juillet, pardon, 13h14. si vous êtes 300 à avoir liké le 9 juillet à 13h14, l'un d'entre vous recevra un bon d'achat. Vas-y, Basto.
Oui, juste le seul point un peu satisfaisant de la conf d'Enrique, où j'ai fait, c'est quand il dit que son joueur préféré était Ginola, justement, vu que tu parles de joueur préféré. Donc, quand Luis Enrique cite Ginola, mais bon, c'est...
Et moi, j'ai aimé la manière avec laquelle il a parlé des jeunes. Alors, il faut se méfier, hein, parce que tous les coachs ont parlé des jeunes, mais la tonalité, les mots choisis, je les ai trouvés intéressants et je les ai trouvés intelligents. Et pour ça, et j'ai envie de dire à Fab, tu t'enterres Ugarte un petit peu trop vite, mec. Mais vraiment un peu trop vite, quoi. Faut comprendre le rôle du joueur. Fab dit Ugarte qui fait moins de 8 passes vers l'avant sur 80 minutes, envie de mourir.
Il n'y a personne qui cite Nuno Mendes comme joueur préféré,
Les gars, j'ai précisé, là vous êtes en train de parler dans le chat. Dans le chat, tout va s'effacer, je n'irai pas accès. Dans les commentaires de la vidéo, de le live après, mettez votre joueur préféré. Et j'ai dit de l'histoire, parce que je vois des Danilo passer, des trucs comme ça. J'ai dit de l'histoire du Paris Saint-Germain, pas l'effectif
actuel. Ça peut être Danilo pour certains.
De l'histoire. Moi j'aime beaucoup Danilo, on n'est pas en train de cracher sur Danilo, attention, mais de l'histoire du Paris Saint-Germain quand même, faut faire doucement s'il vous plaît. Donc après le live, dans les commentaires, vous mettez votre joueur préféré. On va parler peut-être de Nasser, parce que Nasser pour une fois, après ça peut être que des mots, hein. Comme souvent avec Nasser, c'est probablement que des mots même avec Nasser, mais pour une fois, niveau communication, tout ce qu'il a dû gérer dans cette conf, il a très bien fait. Il y a eu le cas Mbappé où il a très bien géré, où il ne s'est pas couché devant Mbappé, il a posé son ultimatum tranquillement. C'était clair et net et précis, il n'y avait pas à débattre sur ce qu'il a dit, il n'y a pas d'interprétation possible. Il y a eu le fait qu'il nous enlève enfin ce poids-là qu'on doit absolument remporter la Ligue des Champions l'année prochaine, où il te dit que... entre guillemets,
c'est pas possible.
Nous,
tu peux faire une face par là.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière de jouer. Le résultat, si ça vient après, tant mieux, mais qu'on est là sur le long terme. Donc là, déjà, il y a un peu moins de pression sur Luis Enrique que sur les coachs d'avant qui devaient gagner immédiatement. Et notamment sur la philosophie de recrutement, ça va se voir, puisqu'on ne va pas recruter des joueurs pour gagner cette année. Enfin, si on gagne, tant mieux, mais ça va être un projet à long terme. Donc, au final, est-ce que Nasser, si on ne prend pas le fait que Nasser raconte des histoires tout le temps, sur ce qu'il a dit en réalité, est-ce que vous êtes d'accord ?
Vas-y, Rayat.
Oui, mais comme tous les ans, c'est là où tu m'as perdu, en fait, c'est ta première phrase, c'est quand tu as dit pour une fois. Tous les ans, Nasser, il nous fait un storytelling. Oui, l'important, c'est le jeu. Alors, au début, c'était la Ligue des Champions. Au début, ça a commencé par on veut pas Messi, on va créer notre nouveau Messi. Puis après, ça a été effectivement ce projet, c'est la Ligue des Champions. Puis après, ça a été non, mais on veut construire sportivement, machin truc. Et puis petit à petit, etc. Mais c'est pas la première fois qu'il nous le fait. Les 100 fautes du storytelling de Nasser, bah, leur seule faute, c'est qu'ils ne se sont jamais réalisés. Donc, il y a un moment, moi, j'ai juste arrêté d'y croire, quoi.
Je t'invite à revoir, Nyx, le live l'année dernière sur la conf de Nasser. La plupart des intervenants étaient contents en disant ouais, il veut plus d'implication, cette fois c'est la bonne, il est paillette. Il avait parlé de changement d'air l'année dernière et cette année, il nous dit quoi ? L'année dernière, c'était pas une changement d'air, mais cette année, c'en est une.
Ce qu'il avait dit l'année dernière. Hein. L'année dernière, il avait dit que l'année d'avant, c'était un changement d'air, mais que c'en était pas un et que du coup, cette année, c'en est une.
Oui, mais sauf que là, il a dit un truc concret. Par exemple, dans le dossier Mbappé, c'est un truc concret. C'est pas genre quelque chose qui va se passer.
Il est obligé,
c'est un deal de négociation, ça. C'est juste une manière de mettre pression pour essayer de faire la pression pour que justement il y ait une pression populaire qui monte, pour que ça mette la pression sur Kylian Mbappé, pour que Kylian Mbappé, c'est juste un argument pour peser dans la négociation. Ça n'a rien à voir.
Oui, mais on est maintenant. C'est pas un truc qu'il a dit que je vais faire, en fait. C'est un truc où il a bien mis Mbappé au dos du mur. Maintenant, c'est pas
il a dit le projet va, en fait. C'est juste un argument de négociation. C'est Mbappé, il continue de faire ce qu'il veut après cette intervention, en fait.
Si Mbappé va rester, il restera.
Fondamentalement, ça change rien. La seule chose que ça change, c'est que tout à coup, tu vas avoir une pression populaire vis-à-vis de Mbappé et ça peut jouer. Et d'ailleurs, tu as la mère de Mbappé qui aurait déclaré je sais plus quoi, je sais plus où, que Nasser était un menteur, blablabla. Mais voilà, c'est juste un argument de négociation. C'est rien d'autre.
Au-delà de la négo, c'est si Mbappé part, le club aura cette communication Mbappé une autre pour qui est le méchant de l'affaire, etc. etc. Mais c'est classique.
Ouais, Freedom, mais ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver.
Qu'est-ce qu'il a dit encore, Mbappé ? Nasser, justement, sur la quête, précisément ce qu'il avait dit, la quête de la LDC, il a dit « Je veux du bon jeu, du bon football. Vous, les médias, évoquez toujours cette attente autour de la Ligue des Champions. Combien de clubs veulent la gagner ? Combien de clubs investissent pour ? Ce n'est pas que le PSG, il y en a beaucoup. On veut poser les bases d'un bon jeu d'abord, c'est la différence cette fois-ci. On ne peut pas parler de résultats avant ça. Bien sûr, nous sommes ambitieux, mais nous avons du temps pour travailler. »
Le truc, c'est qu'en fait, s'il avait exactement le même discours par rapport à la LDC qu'il y a 6 ans, qui était « oui, nous sommes là pour la gagner », ça serait difficile après 6 années comme ça, en fait. Donc, si tu veux, c'est juste une adaptation du discours. Non, mais en vrai, Nasser parle pas mal, hein. Il parle bien. À chaque fois, il parle bien, puis ensuite de ça, il disparaît pour ses 10 différentes responsabilités, puis on le voit plus de la saison, et puis on sait pas à quoi il sert, et puis il réapparaît à l'été, et puis voilà, c'est bis et repetita. On va juger, il y a l'élément nouveau, c'est effectivement, c'est qu'on a un coach qui est offensif, et donc voilà, on va voir. Mais jugeons sur acte, et arrêtons de nous emballer pour une déclaration de Nasser, alors qu'il
y a une phrase aussi,
c'est la troisième année qui nous fait la même.
Il y a une phrase de Nasser qui est pas dans la conf, mais dans son interview au Parisien derrière. Il en fait toujours 3 tonnes sur ce qu'il veut mettre en avant. Donc là, il va mettre un peu côté projet Île-de-France, enfin projet France, formation, et il nous dit dans quelques années, le but est d'avoir 100% d'effectifs français. Mais tu sais très bien que ce ne sera pas le cas. Pourquoi tu dis 100%? Pourquoi tu ne dis pas avec de la nuance? Nasser, c'est toujours hop, de la poudre aux yeux, comme dirait Macron à la poudre de perlimpinpin. Mais
Ami Touche, pour participer. Rapproche-toi de nous sur Twitter. On va voir ce qu'on peut faire.
Je dis après, Nasser, ça se trouve, ne ment pas cette fois-ci, mais c'est comme l'histoire du loup. Quelqu'un qui ment en disant le loup est là dans la maison, et puis ça n'arrive pas, et le jour où ça arrive, et ben, il se fait bouffer par le loup. Quoi.
C'est important ce qu'il dit Goku, là. C'est clair qu'on est dans un storytelling et qu'on connaît pas l'homme. Et à aucun moment, on se permet de juger l'homme. Hein. On juge le storytelling et on juge la différence qu'il y a entre le storytelling et qui s'est reproduit saison après saison, et c'est là-dessus on a mis un avis. Et bien sûr, on ne juge pas l'homme, et peut-être que l'homme a une lecture qui est beaucoup plus honnête, et que quand on discute en 1v1 vs lui, ça se trouve, il a une très bonne lecture. C'est juste que c'est pas ce qui transparaît, ou en tout cas à mes yeux, dans ces conférences de presse.
Mais après, au-delà de la conférence de presse, vous voyez quand même les joueurs sur lesquels on se positionne. Là quand même, on n'est pas sur le Paris Saint-Germain de d'habitude. Il y a une certaine cohérence derrière ce qu'il dit. Cette année, on n'a pas acheté de stars. Elles sont où, les stars? Là, limite, on est en train de se débarrasser de toutes les stars.
L'année dernière non plus.
L'année dernière, oui, mais on avait encore Messi, Neymar, Mbappé devant, donc difficile d'en rajouter
après,
une autre.
Après, on essaie de faire Kane et Bernardo, mais...
C'est pas des stars pour moi.
Dans ce cas-là, le problème, c'est que les stars, en fait, wow, il y a F qui s'est lâché. Dans ce cas-là, les stars, tu les avais toutes prises, en fait. Si Kane et Bernardo, c'est pas des stars, c'est juste que les stars, tu les avais toutes prises. Passer Messi, Neymar et Mbappé, il y a qui comme star? Cristiano Ronaldo, il est un peu mieux. Donc, bien sûr, Kane, Osimhen, tout ça, c'est des stars.
Merci Eve pour le soutien, tu es une crack Eve, merci beaucoup. Non, pour revenir à... Non, mais pour moi, c'est des bons joueurs, très très bons joueurs de haut niveau. Par exemple, Bernardo Silva et Kane, c'est des joueurs collectifs, c'est pas des stars, c'est pas un mec qui va dire...
Dis-moi, il y a qui comme star à part Messi? Mbappé, Ronaldo et Neymar? Il y a qui comme star?
Il y en a plein. Il y a Vinicius, c'est une star.
Vinicius, c'est plus une star. Vinicius, c'est plus une star que Kane. Ah bon?
Bien sûr que si.
Vinicius, il s'impose pas en sélection. Il est pas bon en sélection.
On part côté marketing.
Mais Vinicius, c'est juste parce qu'il est Real. Sinon, il est pas très marketing. C'est juste parce qu'il y a la.
Mais Vinicius, c'est Brésil Real. Kane, c'est pas. C'est un mec qui est beaucoup aimé, par exemple, en Angleterre. Mais tu sors de l'Angleterre.
Mais
Kane, c'est pas une superstar. Je suis désolé.
Kane va au Real, ça devient une superstar autant que Vinicius.
Si, peut-être s'il va au Real parce qu'il aura la commu Real. Mais Vinicius, il a le Brésil plus le Real. Moi, déjà, j'aime pas Vinicius, mais je dois reconnaître que niveau marketing et tout, dans les campagnes Nike et tout ça, tu vas avoir du Vinicius dans des grandes publicités de grandes marques. Kane, c'est un joueur de foot, en fait. Tu vois, c'est un pur joueur de foot.
Il y a le juge Instagram. Vinicius, c'est 40 millions. Kane, c'est 15 millions.
Voilà.
Tu as raison.
Voilà.
Mais oui. Mais bon...
Voilà, c'est ça. Après, il y a peut-être ça aussi. Peut-être les mots, ils sont pas bons. Il y a un mot qui me dit qu'il y a une différence entre star et diva. Peut-être.
Non, mais à partir du moment où tu as plus de 30 millions de followers sur Instagram, en général, tu es plus une diva qu'une star.
Regarde. La première recrue de Paris, c'est Skriniar. Donc, Skriniar arrive. Il y a X likes sur le com du PSG. Et puis derrière, tu as Asensio qui arrive. Et tu as 3 fois plus de com en 10 minutes que Skriniar en 3 heures. Pourquoi? Parce que c'est le Real. Pourtant, Asensio n'est pas une plus grande star que Skriniar.
Ça se tape.
Et pourtant, Skriniar... il a 4 fois plus de likes, tu vois. Donc, la marque Real, c'est...
C'est très vrai ce que dit Sokadim.
Bah c'est ça, c'est dit, le problème de Kane, certes, il est très monstrueux, mais Tottenham, zéro buzz. Et sélection, il a fait quoi?
Sélection, c'est le meilleur buteur à chaque fois.
Sur Tottenham, c'est très très vrai. C'est-à-dire que même quand Tottenham fait quelque chose, Tottenham.
Non, mais je pense que même s'il jouait à Liverpool, ce serait pas une super super star Kane. Kane, pour qu'il devienne une super star, s'il va au Real, oui, mais en dehors de ça... par contre, je voulais régler un différend que j'ai eu avec Basto dans la semaine. Donc là, ça va être le moment de régler nos comptes parce qu'on voulait des témoins. Là, on veut régler absolument cette histoire. Les gars, s'il vous plaît, dans cette saison exécrable du Paris Saint-Germain, qui a été le meilleur milieu de terrain? Ne dis pas ce que tu as dit, Basto, je ne dirai pas ce que j'ai dit. Je veux juste voir ce que les gens ils disent dans les commentaires. Pour vous, qui a fait la meilleure saison en tant que milieu de terrain au Paris Saint-Germain, dans le PSG de Galtier, il y a Tigoukou qui nous dit Vitinha déjà. Donc, c'est ni la personne que tu as dit.
Ah, mais moi j'en ai plusieurs.
Baston, on sait, il a dit Marco Verratti.
Ah, il y a Rafinha qui nous dit Danilo, mais il a plutôt joué en défense, donc on ne va pas le juger. Voilà, ok. Ok. Voilà, merci les gars, je commence à voir. Parce que pour l'instant, j'ai toujours pas vu le blast du mec que t'as dit. Donc on va attendre.
J'ai dit qu'avec sa fin d'année, Ruiz n'a pas fait une moins bonne année que Verratti et Viti non plus. Les trois.
Tomso, oublie pas pour l'année de Verco Verratti que tous les matchs où il y a Messi, il sert à rien sur le terrain presque.
Non, mais les gars, Emery, il a joué 5 matchs titulaires, arrêtez.
Voilà, donc là, pour l'instant, il y a genre 15-20 commentaires. il y en a peut-être la moitié qui sont d'accord avec moi et il y a absolument personne qui a dit Ruiz.
Mais Ruiz et Vitinha, ils font la moitié des erreurs de but coûtés par Verratti. T'imagines comment ils sont encore plus coûtés au Verratti.
Vous savez, c'est qui le milieu le plus décisif cette saison?
C'est Soler.
C'est celui qui a mis le plus de buts.
Ouais, Ruiz, il en a mis.
Ruiz, il en a mis quelques-uns, mais Soler en a mis plus.
Ouais, mais après, il a joué attaquant, Soler, souvent.
Non, le meilleur
commentaire, c'est exactement ce que j'ai dit à Basto, c'est exactement ça. Verratti, et ça en dit long sur notre milieu de terrain, parce que sa saison a été dégueulasse. Mais malgré tout, tu peux pas me dire qu'il y a un des nulards à côté qui a fait une meilleure saison.
En 2023, Ruiz fait une meilleure année 2023.
Vitinha est meilleur que Verratti et Vitinha rate complètement cette saison. Vitinha part très bien puis il se prend les pieds un peu dans le tapis.
Il disparaît pendant
3-4 ans. Et il est meilleur que Marco Verratti.
Non mais regarde.
Revois un match de milieu de saison hein, quand tu rates sur Vitinha. Regarde ce que faisait Marco Verratti dans ces matchs-là, les passes ratées, les passes directes en touche. C'était défilé Marco Verratti cette saison.
Vous pouvez dire arrêtez autant que vous voulez. De janvier à mai, Verratti n'a réussi qu'un match. Ruiz et Vitinha, on aurait réussi plus qu'un.
Oui,
Marco Verratti a fait deux bons matchs. Hein. C'est quand Messi n'était pas là en fin de saison sur les absences de Messi, et à ce moment-là, il a fait deux bons matchs. Voilà.
Ouais, mais Verratti, Juve et Benfica, c'était avant janvier et en plus, il coûte un peu.
Il y a une question importante pour Jacques Somme par rapport à son commentaire. Tu parles des matchs où il a joué 10 minutes ou ceux où il a joué 35 minutes? Tu peux remettre le commentaire de Jacques Somme?
Je trouve pas, il y en a pas mal là.
Il disait Renato Sanchez quand il n'est pas blessé. Du coup, je lui demandais s'il parlait des matchs où Renato Sanchez a joué 10 minutes ou où Renato Sanchez a joué 35 minutes.
Bon, l'histoire retiendra que...
The Frank, tu l'as pas mis, celui-là. Ruiz a été Frank... meilleur que Verratti. Tu l'as pas mis, ça, à l'écran.
Mais c'est évident qu'il a été meilleur. Verratti a été, mais c'était abyssal, le niveau de Marco Verratti cette saison, quoi.
Mais vous êtes fous, les gars.
Mais non, c'est...
ils ont tous été nuls.
Pas sans touche. Nix, pas sans touche.
Non, mais ils ont tous...
Non, mais attends, là, c'est là, on est avec The Voice de M6, quoi.
La foule est d'accord avec moi.
Bon.
Non, mais vous aimez les passes en touche, ok.
Ah, voilà, il y a Amitouche qui a dit Basto, tu as arrêté de regarder le match derrière.
Ah oui, parce que j'en avais marre de voir Verratti.
Bah, merci le peuple, parce que j'ai enfin réglé ce différend que j'ai passé avec Basto toute la semaine dans notre groupe Paris Central, qui me disait que oui, ça a été le meilleur milieu de terrain, mais franchement, c'est n'importe quoi. J'ai gagné, Basto.
C'est un peu pour te provoquer aussi. Tu savais très bien que tu gagnerais ce débat.
Ok. Cherche les stats. Cherche les stats au niveau de Marco Verratti.
Il a dit les stats de progression de balle, mais progresser de ses 30 mètres aux 10 mètres adverses pour revenir en retrait. Bon, ça
oui, et puis bien. Après, il n'y a pas que ça comme ça. Tu vas sur FB Stats et tu regardes la qualité des passes, etc. Tous les curseurs sont en baisse drastique cette saison par rapport aux autres saisons de Marco Verratti. Il sort sa pire saison, Marco Verratti.
Ça, je pense que tout le monde est d'accord que de toute façon, aucun milieu n'a brillé. Je pense que ça, tout le monde
là, on est tous d'accord là-dessus. Ils ont tous été nuls, exécrables. Voilà. Dernier petit sujet, peut-être avant d'avoir une ou deux questions. On a parlé de Kylian Mbappé. Là, on a Kipembe qui a changé d'agent, qui a pris un agent qui est très spécialisé sur la Première Ligue à un an de fin de contrat. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un Mbappé-Kipembe, c'est-à-dire que les deux ils vont partir libres cette saison, et deux joueurs français, deux joueurs parisiens, et qui quittent le Paris Saint-Germain libre? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec Kipembe? Parce que là, clairement, il se dirige vers l'APL avec ce move. Est-ce qu'il va peut-être partir cet été, ou est-ce que genre il prévoit de faire une Mbappé en 2024?
Il a besoin d'une saison pour montrer qu'il a encore le niveau avant d'intéresser des clubs acheteurs.
Bah, ouais. De toute façon, Kipembe ne rejouera pas avant janvier.
Je vois pas
pourquoi il prolongerait, surtout avec les arrivées de Lucas Hernandez et Skriniar. Il ne fait plus partie vraiment du... Il sera plus titulaire, quoi, on va dire. Et puis de revenir du tendon d'Achille, c'est compliqué. Et donc là, s'il prend cet agent, oui, c'est pour avoir des offres en agent libre cet été en Angleterre. On sait qu'il était suivi par plusieurs clubs anglais ces dernières années et qu'il a un jeu qui correspond a priori à la Première Ligue s'il revient de sa blessure.
Donc pour vous, saison prochaine, il reste au Paris Saint-Germain.
Oui. Bah, quel club pourrait se positionner sur lui, en fait, avec sa blessure, avec l'état, avec ce qu'il a montré les deux dernières saisons, et avec le fait qu'il ne soit pas disponible dès le début de la saison. Enfin, il faudrait vraiment qu'il soit maso, le club, pour l'acheter.
On a déjà vu ça, hein, des joueurs qui ne pouvaient pas jouer avant septembre, octobre, voire novembre. Même, je crois, Suarez, quand il arrive au Barça, il joue.
Il sortait pas de deux années où il participait à trois mois dans la saison, quoi.
Oui.
C'est le nom d'Achille, c'est la blessure la plus grave.
C'est violent, hein, Kim, à l'arrivée.
Ok, bon, ben, on a clôturé tous les sujets qu'on devait aborder. Là, on vous laisse 10 minutes pour poser des questions. Et après, on va vous laisser passer un bon samedi entre vous, en famille, entre amis. Profitez de match entre Paris Saint-Germain pour l'instant. D'ailleurs, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, par exemple, Tottenham a repris l'entraînement le 2 ou le 3 juillet et que nous, on reprend l'entraînement le 10 et le 17? Est-ce que ça vous choque?
Non.
Je sais pas, je connais pas assez les datas pour avoir un avis dessus.
On peut dire, en plus, il y a eu le match de Trophée des Champions qui a été reporté. Donc, on commence plus tard cette année avec la première journée de Ligue 1. Je me demande si la Première Ligue reprend pas plus tôt, d'ailleurs.
Je crois pas, non. Je suis pas sûr. Je pense pas.
On reprend le 12 août et la Ligue 1. Ça doit être pareil, ouais. La Ligue 1, le 12 août, ouais, non, ça reprend en même temps.
Rien de choquant, on est dans la globalité sur la reprise. Ok. Il y a OK qui nous dit Bernardo Sala à droite. Je pense que tout le monde va dire Bernardo aussi. Les 10 premières journées sont pas mal en L1. Ouais, j'ai vu le calendrier, il est très intéressant.
C'est vrai que pour Luis Enrique, on va vite pouvoir le juger parce qu'au moment où arrive la Ligue des Champions, je crois qu'on enchaîne Marseille, Lens, Nice, Lyon, Monaco. Donc oui, ça. C'est plutôt intéressant.
J'ai envie de répondre à la question de N.
N, c'est bon. Vous pensez quoi de changer tout le milieu de terrain, mettre Ugarte, Barella et un mec comme Vega puis garder Verratti pour la concurrence? Moi, j'aime bien.
Mais moi, j'y crois pas. Moi, j'aime bien, mais j'y crois pas avec Enrique. Parce qu'Enrique, en 6, il a toujours joué avec des joueurs qui étaient quarterback et tu peux ni mettre Barella ni Viega en 6.
S'il les a pas, il peut changer.
Et Ugarte, à mon avis, il va plus le faire jouer en 8 en mode chien de garde. Et donc, il faut repenser dans l'idéal, hein, par rapport à comment joue Enrique. Tu regardes Busquets, alors je sais plus qui c'était en Espagne, mais à chaque fois, c'est des esthètes du ballon, hein, qui jouent 6. Et il va plus se mettre Ugarte en chien de garde avec un 6 qui est quarterback et un 8 qui sait se projeter. Dans l'idéal. Après, est-ce qu'on sera capable de résoudre cette équation où il nous manque mine de rien deux joueurs sur les trois? Si on veut être cohérent, je suis pas sûr qu'on pourra le faire cet été, surtout avec les besoins qu'on a devant. Déjà, un 6, ça serait bien.
Bon, avant de répondre à la question.
Mais je sais. Ouais. Mais c'est un problème, je pense.
Avant d'enchaîner les questions, vous êtes 370. N'oubliez pas, si on atteint 300 likes dans les 24 heures, on vous offre mon achat de 20 euros pour acheter votre maillot du Paris Saint-Germain sur le store Nike. Quel ailier droit vous aimeriez voir venir en commentaire?
Il y a Drogbus qui demandait, Luis Enrique joue avec quel 6 à la Roma? Je crois que c'était des Rossi, hein, déjà à l'époque.
Et à Franck qui demande pour Jonathan David, si t'as rien d'autre, moi je prends. Parce que c'est un joueur prometteur. Après, est-ce qu'il est assez solide? Il y aura toujours des questions, quoi.
Bah, David ou Colo, quand on dit que la priorité ce serait Colomani, je prends David.
Oui. Ah oui, moi aussi.
Ah punaise, il y a un sujet, j'ai oublié de l'aborder. Mais bon, il était tellement ridicule que j'ai complètement oublié. Ousmane Dembélé à 50 millions pour remplacer Kylian Mbappé. Bah, je dis ridicule, pas ta question, Eve, hein, mais le changement, il est complètement ridicule.
Il joue à droite en plus.
Oui, en plus. Mais.
Est-ce que Dembélé est le genre de joueur qui n'aura pas des cataclysmes avec les nuits parisiennes?
Non, je pense pas. Je pense tu pas qu'il sera là le problème.
Ok. Zed n'a pas dit que Rossi était un quarterback, il ne l'a pas cité. Il citait ceux de Barça et Espagne.
Ah, De Rossi n'était pas quarterback. De Rossi, justement, c'était le protecteur du quarterback.
Mais il jouait 6 hein, à la Roma.
Oui.
Avec Luis Enrique.
Ah bah, peut-être que ce n'est pas cette partie.
Est-ce que Skriniar a vraiment une chance de s'imposer en Ligue 1 dans une défense à 4 avec un coach comme Luis Enrique? Je crois que Bastou, il avait dit non la dernière fois.
Je pense qu'il joue. J'avais dit que ce serait au meilleur entre Marquinhos, Hernandez et Skriniar de jouer. Je pense que les trois sont plus ou moins sur la même ligne, en fait.
Après le dossier d'Ambélé, je commence à me dire quelque chose. Je commence à me dire que le Paris Saint-Germain a une stratégie de recruter des très bons joueurs qui sont souvent blessés à des prix un peu plus bas. Mais comme ça, vu que tu en as beaucoup, tu en as toujours un qui est là pour être très bon. Parce que là, tu as récupéré Hernandez qui est tout le temps blessé pour concurrencer l'équipe MB qui est toujours blessé.
Et Nuno,
donc là, tu as deux mecs qui sont tout le temps blessés, mais tu en auras probablement toujours un. Après, tu prends un mec comme Neymar qui est grave bon, mais qui est toujours blessé, comme ça, ça s'alterne. Là, à droite, tu fais ça avec Dembélé aussi.
Et s'ils sont tous blessés en même temps ?
Ouais, là, ce serait vraiment le poids Saint-Germain.
Parce que si c'est vraiment une stratégie, c'est quand même de la spéculation. Quoi. On se dit un qui frappe pendant que l'autre, mais bon.
On va réveiller Dryas, ça va l'énerver. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Jackson. Non, Colomboigny est meilleur que Jonathan David.
Non, mais David est un joueur, en fait.
On va pas jouer avec un faux neuf.
C'est la question, c'est comment tu veux jouer, en fait. C'est pas le même joueur. Et après, meilleur, j'en sais rien, parce que Jonathan David, crois-moi, je l'ai sous-estimé pendant très longtemps et je me suis rendu compte de mon erreur. C'est un joueur qui est capable de progresser, qui est capable de se remettre en cause, qui a une vraie maturité. Il est pétri de qualité, mais ça dépend comment tu veux jouer. Colomboigny, c'est un mec qui est très rapide pour partir, qui est très rapide, limite dans les phases de transition. Mais est-ce que c'est un vrai neuf ? Je sais pas. Est-ce que c'est un mec qui s'est pesé dans une surface en restant dans la surface pour être capable de recevoir des jeux ? Pas vraiment. Donc, qu'est-ce que tu veux, en fait ? Le débat est là.
Ouais, c'est ça, ça dépend.
C'est pas que le niveau du joueur, en fait, la question.
Parce que oui, c'est un problème avec Colomboigny, mais l'avantage, enfin, c'est plus un avantage, parce que Mbappé va probablement se barrer. Mais c'est un mec qui aurait combiné de manière exceptionnelle avec Mbappé. Colomboigny.
Ça va marcher.
En équipe de France, les deux, on les voit vachement combinés. Hein. Ça marche pas du tout.
T'as déjà vu du beau jeu sur Didier Deschamps ?
Non, mais j'ai déjà vu des combinaisons au moins avec Griezmann. Colomboigny combiné, c'est pas vraiment son point fort. Hein. Il en a l'impression qu'il va tomber à chaque dribble.
Non, mais va regarder ses stats. Va regarder ses stats de passe décisive.
Tu vas chauffer Nix, là.
Mais c'est pas décisif, regarde en Ligue 1. Mais en Ligue 1, c'est 4, 5 et 8, je suis dessus, ce qui n'est pas terrible. Et en Bundesliga, il y a tellement d'espace qu'il est à 12. Mais regarde, tu prends tous les attaquants, on avait fait qui sont allés à Francfort.
Franchement, parce que je l'ai déjà dit, je suis le joueur depuis je ne sais pas combien de temps, je regardais les matchs de Francfort. Il m'a plus surpris cette saison par les passes D qu'il a fait et par les buts qu'il a marqués.
Tu peux te sortir des passes D en 7 matchs de Ligue des Champions, parce que si on ne parle pas Bundesliga, en 7 matchs de Ligue des Champions, c'est 0 passes D. En 9 sélections avec l'équipe de France, c'est 0 passes D. Donc, quand il y a du haut niveau qui s'élève, d'un coup, il n'en a plus une.
Ça dépend. Ça dépend dans quel rôle tu le fais jouer. C'est ça aussi.
Jonathan David, il a en moyenne 7-8 passes D par an aussi. Hein. En plus de marquer
Mais il y a aussi un élément importantissime. Et je pense pour toi, Kylian Mbappé, pour moi, le meilleur Kylian Mbappé, alors après, il s'est étoffé physiquement, mais le meilleur Kylian Mbappé, c'est celui de la période monégasque. Et il est. Comment il s'appelle le 9 déjà ? Mince, le tigre.
Falcao.
Voilà, il est avec Falcao et il est extraordinaire. Et Kylian Mbappé, pour moi, tu le mets avec un vrai neuf et Jonathan David est un vrai neuf, même si bien sûr hein, Osimhen c'est au-dessus, Kane c'est au-dessus, etc. Si tu peux pas avoir ces joueurs là, et je pense qu'avec Kylian Mbappé ça aurait très bien marché. Maintenant, moi je suis pour que Kylian Mbappé parte, donc je suis pas dans cette éventualité là.
Nix, je titillais un peu hein, sur Colo. T'as voulu lancer le débat Ruiz Verratti, donc je sais que t'aimes bien Colo.
Mais moi, je l'aime tellement bien qu'en fait, je veux pas qu'il vienne au PSG. On est là au niveau où je l'aime bien.
On va dire la même chose. Moi, je l'adore, donc j'ai pas envie qu'il vienne au PSG aussi.
Je veux pas qu'il vienne. Par contre, on en reparle l'année prochaine, puisque s'il se dirige vers United, ça peut être plutôt sympa.
Lautaro, c'est pas plus avec Messi.
Lautaro, ça aurait assez. Oui, c'était Messi compatible. Hein,
voilà, c'est plus. C'est
mais ça, après, Lautaro, tu vois qu'il il a adoré jouer aussi avec
Lukaku. Pardon, excuse-moi.
Lautaro, il a adoré jouer avec un Lukaku et un Dzeko, mais il faudrait un autre neuf, tu vois. C'est plus. Oui, c'est ça.
C'est pas ton neuf, en fait. Mais par contre, je me suis rendu compte après coup, j'ai coupé la parole à Nix.
Non, tranquille, je sais même pas ce que je disais.
Tu disais Colomboigny à United, on verrait.
Vlahovic, c'est une bonne réponse, ouais. Mais est-ce que tu peux l'avoir ? Et surtout, il y a plein de news qui l'envoient ailleurs. Enfin, j'ai pas suivi là sur les deux derniers jours, mais j'ai l'impression qu'il va plutôt aller ailleurs. Et ça serait une très bonne réponse, hein, Vlahovic. Ça serait une très bonne réponse. Après, si Kylian Mbappé part, je préfère un mec qui est capable de revenir d'un petit peu plus derrière. Et enfin, bah, après, c'est pas le même prix, hein. Mais quitte à, je choisis Osimhen pour le coup.
Il va rester une minute dans ce live. On va prendre peut-être une dernière question intéressante.
Genre nos auditeurs posent des questions pas intéressantes, Nix. Oh là là. Ah,
mais Asensio, c'est vrai, on oublie à chaque fois de le citer. Limite, il est là, mais on sait déjà qu'il n'est plus là.
Ouais, moi, cette question elle m'intéresse parce que à chaque fois, je me tape avec Basto dans les groupes. Parce que moi, j'arrête pas de lui répéter que les joueurs de Liga au PSG, ça ne marchera pas.
Bah, les joueurs de Rediviz, non, tu vois.
Donc, cette question, dans quel monde la saison d'Ascension ne va pas être un flop total qui, en plus, bouchera la rotation à un jeune ou un retour de Xavi Simons, par exemple?
Deux choses.
Mais pas les jeunes en même temps.
Ascension, déjà, j'y crois pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous espagnols que j'y crois. Hein. Tu sais, toi, sur Vega, tu penses que ça va être un gros flop, Gabriel Vega. Alors, pour moi, non. Ascension, oui. Bah, Ascension, de toute façon, il est là. Il sait qu'il sera sur le banc. Simons, ce n'est pas la même chose. Simons, il est jeune, il a besoin de se développer, il a besoin de jouer, il ne doit pas être numéro 2 ou numéro 3 dans la rotation. Et Simons, on en fait beaucoup attention. D'ailleurs, son Coman lui a mis une petite pression en disant que Simons, s'il allait dans un
groupe,
aurait sûrement peu de temps de jeu. Des joueurs qui ont brillé en Eurodivise, parce que tu parles des joueurs de Liga, mais des joueurs qui ont brillé en Eurodivise et qui ont flop en Liga 1, il y en a eu ces dernières années. Je pense à Stangs qui est venu à Nice et Boadou qui sont venus à Monaco. Les mecs ont mis deux buts à eux deux en trois saisons. Donc, attention. Asensio sera titulaire, il dit Alain Philippe. Je suis pas sûr.
C'est pas d'avis. Asensio, c'est encore un mec du Real. Bon, bah, on a déjà fait avec Ressé, on va espérer que ça finisse un peu mieux. A priori, il est moins fan de Ragaton, donc ça devrait aller un petit peu mieux. C'est ce que tu peux attendre de lui. Moi c'est un joueur que j'ai toujours trouvé pas mal, mais qui m'a toujours un peu déçu. Maintenant, on va voir, effectivement, qu'en sortie de banc, il sera peut-être utile. Après, sur les jeunes, ils ne bloquent pas de jeunes. Le seul qui bloque, c'est Simons. Mais Simons, comme l'a dit Basto, il vient de se prendre un message par Koeman qui était en substance « Reste au PSV et ne bouge pas, surtout avec l'Euro qui arrive. Si tu veux jouer à l'Euro et que tu pars, tu perds ta place. » En gros, il lui a dit ça. Donc, Simons, il va rester là-bas. Et comme le disait Basto, ce n'est pas pour autant qu'on a une garantie. Hein. Il a aussi des défauts. Il a aussi des défauts, Simons. Mais en l'occurrence, là, il n'y a pas de jeunes qui sont dans le poste de Asensio. Et c'est pas lui qui bloquera un jeune, parce que ni Ousni ni Garbi ni Warren Emery jouent à ce poste là en tout cas.
C'est un mercato aux antipodes du bling bling et c'est déjà un très bon point.
On donnera les thunes à la fin du bal.
Ouais, franchement, mais je sais pas comment le Paris Saint-Germain il arrive toujours à faire ça à la fin de la saison. Je me disais je vais commencer à prendre du recul avec ce club. Ça commence à me saouler. Ça fait 3 ans, c'est dégueulasse. J'en ai marre. Tourelle, Galtier, Pochettino, rien. Et là, mine de rien, ils ont réussi à hype un petit peu pour la saison prochaine parce qu'il n'y a pas de nouvelles têtes. Il n'y a pas de nouvelles têtes et j'ai hâte, surtout que le calendrier de début de saison il est très intéressant. Et j'ai hâte d'être au mois d'août, là, clairement, ouais. Parce qu'on va avoir de beaux matchs.
Il y a une info mercato qui est tombée. Le nouvel entraîneur des gardiens qui vient du FC Andorre, 7e de Division 2. Donc Luis Enrique, c'est un entraîneur des gardiens. C'est un entraîneur des gardiens de 31 ans qui a entraîné en Division 2 espagnole.
Ok. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que Enrique, il vient dans son staff avec quelque chose qu'on n'avait jamais, c'est un psychologue. Oui. Et ça, c'est pas anodin. Et ça fait plaisir parce qu'on en a besoin.
Mais je crois qu'il y a déjà eu une conférence entière de psychologues qui ont essayé de s'occuper de Neymar. Ils sont tous rentrés chez eux parce qu'ils ont dit que c'est un cas impossible.
Non, en vrai, c'est vrai que l'Espagne a une approche au coaching mental et à la psychologie qui est assez institutionnalisée. Notamment les joueurs de tennis, je sais que là-bas, dès les U10, ils ont un coach mental qui accompagne le coach sportif. En France, c'est beaucoup plus compliqué. On est très en retard là-dessus, donc c'est une bonne chose que Luis Enrique vienne avec un psychologue. C'est moins culturel en France, quoi.
Pour le jeu au pied de Donnarumma, ouais, on verra bien ce que ça donne. écoutez, les gars, je sais pas si j'ai vu une
dernière. Corinne, vous êtes vraiment enthousiaste, vous ?
Je connais pas.
De ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il aime bien garder la balle dans les pieds, le garçon. Hein.
Je connais pas assez, mais oui, j'ai peur que ce soit des dribbles qui soient pas dans le sens du jeu. Après, en fin de match, sur un quart d'heure, mettre la folie, justement.
Sans Garé, je suis pas trop chaud. Avant, Garté peut-être, là, je vois pas trop pourquoi.
Ou avec Ougarté, non. Et puis, de toute façon, je crois que le club a étudié Sangaré. Ils avaient des soucis avec son comportement hors terrain, a priori.
Ok, ok. Tu parles de Lee Kang-in. Si c'est le cas, ouais, bah ouais, bah être percutant, c'est bien. Mais si c'est être percutant pour s'empaler dans la défense adverse, on verra. Hein. Pour l'instant, j'ai juste vu des vidéos YouTube. Hein. Je ne l'ai jamais vu en match. Hein. Mais à chaque fois, ce qui est mis en avant, c'est pas, t'as pas l'impression qu'il a un QI foot super développé. Maintenant, bon. On verra que j'ai tort.
Bon, les gars, avant de vous quitter, deux choses. Déjà, la première, c'est est-ce que pendant cette période mercato, vous avez envie de plus de live, ou est-ce que sur le rythme actuel où on est là, tous les samedis, on se retrouve à 12h30, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous voulez plus de live? Parce que j'essaie de pas programmer des lives quand il n'y a pas vraiment d'actu. Quand il n'y a pas grand chose à dire, là j'attends qu'il y ait de l'actu, après on fait des lives. Après, si vous voulez qu'on se pose et qu'on fasse des lives et qu'on parle entre nous de ce que vous avez envie de parler, etc., n'hésitez pas à nous le dire. On peut faire des lives où on échange complètement avec vous, il n'y a pas forcément de sujet d'actu Paris Saint-Germain. Donc si vous avez envie de ça, n'hésitez pas à nous le dire, juste dans le chat ou dans les commentaires après la vidéo, n'hésitez pas. Y a un mot qui nous dit plus de lives, plus de likes. Non, pas du tout, rien à voir. Rien à voir. En fait, c'est pas ça la question, parce que c'est pas le nombre de likes que t'as, genre tu vas lâcher 50 000 vidéos, tu vas lâcher 50 000 likes. C'est le ratio de nombre de likes par rapport au nombre de vues sur la vidéo. Mais tu peux faire 2000 vidéos par jour, ça ne changera rien. Mercredi et samedi, nous dit Djokovic, 2 à 3 fois par semaine, ce serait bien. Bah, écoute, on va essayer d'en caler hein, dans la semaine. Et la dernière des choses, c'est que vous êtes 355. Mettez des likes. N'oubliez pas. On va essayer de faire ça souvent, ce mercato là. Tiens, on va jouer avec vous. On va essayer de faire des jeux. S'il y a 300 likes d'ici demain, on a commencé à 12h30. Demain, 13h, on vous offre 20 euros à celui qui mettra en commentaire, dans les commentaires de la vidéo, son joueur préféré du Paris Saint-Germain. On fera un tirage au sort et celui qui gagnera remportera 20 euros sur la boutique Nike pour acheter son maillot du Paris Saint-Germain. Après, on verra si vous faites 600, 700, peut-être qu'on vous donnera plus. C'est à vous de jouer, les gars. Moi, je peux pas le faire à votre place. Vous pouvez liker la vidéo, c'est gratuit, ça nous aide et ça peut vous aider.
J'ai le droit de jouer votre maillot.
Like, si tu veux, joue. Non, c'est pas vrai, il n'a pas le droit de gagner, mais il peut jouer. Il peut jouer, il ne gagnera pas. Ce ne sera pas un animateur qui va gagner, je vous l'assure. Mais j'ai essayé d'appeler Ambre Jackson, mais elle m'a laissé sur répondeur, donc c'est un peu compliqué. Mais peut-être on peut trouver une note Ambre Gondi, on verra. Bon, les gars, sur ce, bon samedi. Ça fut un plaisir de passer cette heure avec vous. C'était vraiment exceptionnel. Donc n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, et on se dit à samedi prochain pour moi. Et peut-être dans la semaine, vous allez voir un live avec Dryas ou Basto ou Tonton ou Rekoba, etc. Bon, bah, bon samedi, les gars. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est Paris.
Et Javier Ratmoé.
Ciao, ciao.